Marc Bafou, activiste de l'African Diaspora Forum. À ses côtés, Philippe Amerding, directeur associé d'Afrique Search, via Skype de Johannesburg. André Thomashausen, professeur à l'UNISA. Et à mes côtés, avec moi, sur le plateau dans la capitale américaine, Alix Boucher, spécialiste des transitions politiques. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir. Professeur Thomashausen. Professeur Thomashausen, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Que pouvons-nous dire, du ton du premier discours du président Ramaphosa?
C'est un ton de réconciliation. Il a adressé directement le chef de l'opposition, M. Mamane, en lui demandant qu'on pourrait se traiter avec respect et avec un esprit constructif. Il a adressé les autres membres de l'Assemblée de la même façon. Alors c'est un discours qui renforce l'idée du patriotisme et de l'union de l'Afrique du Sud.
Surpris du déroulement des derniers événements avant la chute de Zuma, Marc Bafou? Marc Bafou?
Si je comprends bien, vous demandez les derniers événements avant la chute de Zuma.
Effectivement.
Je ne sais pas si on peut parler des derniers événements parce qu'il y a eu tellement d'événements. Les derniers, c'est quand Zuma a tenté de s'accrocher le même jour où il allait annoncer sa démission. Mais il faut dire que tout le monde voulait le départ de Zuma. Il y a des syndicats qui ont demandé qu'il quitte. Il y a les partis qui sont en alliance avec l'ANC, son parti politique, qui lui ont demandé de partir. La société civile, tout le monde a demandé à Zuma de partir. C'est Zuma seul qui ne voulait pas partir. Parce que Zuma, je crois qu'il ne veut pas partir dans la tête qu'il est corrompu. Et donc, il a nié et vous avez... certainement suivi que jusqu'à la dernière minute, il dit qu'il ne sait pas pourquoi on lui demande de partir.
Justement, Alix Boucher, quels sont les principaux reproches qui sont faits à Jacob Zuma qui ont conduit à sa démission?
Je pense qu'il y en a, plusieurs. Le président a été impliqué dans de nombreuses affaires de corruption. La principale, la plus récente, c'est l'affaire de la capture de l'État et des affaires de la famille Zuma avec la famille d'origine indienne Gupta. Mais avant ça, il y avait aussi eu il me semble 783 accusations de blanchiment d'argent dans une affaire d'armement achetée par une entreprise française. Il y avait eu aussi le scandale autour de la rénovation de sa maison dans son village natal qui avait apparemment coûté aux contribuables 20 millions de dollars à peu près et dont il avait fini par en rembourser un certain nombre de ses dépenses mais pas entièrement. Et donc toutes ces affaires ensemble ont évidemment contribué
à sa chute. Philippe Amerding, on a suivi les épisodes d'une saga où Jacob Zuma semblait imposer le rythme. Selon vous, avait-il toujours de l'autorité sur son parti?
Enfin, de l'autorité sur le parti, je pense qu'il l'avait. Elle avait commencé à s'affaiblir. Et je pense qu'en fait, la messe était dite au moment du dernier congrès. À ce moment-là, je pense que les ensembles, en fait, les membres de l'ANC ont voté et avec la configuration, en fait, du comité exécutif tel qu'il a été voté à ce moment-là, on s'est aperçu que, d'une part, son ex-femme n'ayant pas été élue à la présidence du parti, ça c'était son support majeur, mais ensuite les autres qui restaient autour de lui, il devait rester, je crois, trois autres personnes, des inconditionnels, tels que Jesse Duarte, ou encore Ace Magashule ou David Mabouza, mais eux-mêmes aujourd'hui doivent se rendre compte que dans le cadre de l'échéance de 2019, tout le monde ne peut pas traîner le passif que Jacob Zuma est si on veut gagner les élections. Donc il fallait, c'était à un moment donné, ça devait arriver. Maintenant, c'était une question de temps, à quel moment. Donc oui, il avait perdu la mainmise et le pouvoir au sein du parti. Et c'était plus une question de temps avant qu'on lui demande de partir.
André Thomas Hausen, qu'est-ce qui l'a porté à céder, d'autant qu'il avait déjà eu à confronter, à survécu à des motions de défiance par le passé?
Bon, cette situation ici, elle était critique. Les 8 ans de Jacob Zuma ont apporté pratiquement la faillite à l'Afrique du Sud. Seule la centrale, le monopole de l'énergie, a subi une perte de 12 milliards d'euros. Et c'était une situation un peu dramatique où personne ne sait comment on va gérer l'avenir. Pour Zuma, c'était la fin. Les sondages démontraient qu'il avait tombé au-delà des 10% d'appui dans le parti et dans le peuple. Pour lui, le choix aurait été de, s'il aurait resté, on l'aurait écarté à travers une motion d'impeachment qui aurait provoqué la perte de tout. De défiance, l'impeachment selon la procédure américaine, un peu une copie de cette procédure. Et dans cette procédure-là, il aurait perdu tous ses privilèges, sa réforme, son statut d'ancien président. Et vraiment, il aurait tombé dans un vide. Ainsi, pour lui, il n'y avait pratiquement plus de choix. Nous savons que dans l'après-midi d'hier, il avait essayé encore de faire écrire une proclamation pour proclamer un état de siège, un état d'urgence, d'émergence, de suspendre les travaux de l'Assemblée, de faire arrêter une dizaine d'opposants dans son parti et de faire une démission de son cabinet, qui inclut le président adjoint, Ramaphosa, mais heureusement, c'était un peu la grande capacité comme négociateur de Ramaphosa de l'avoir convaincu de faire tomber un plan de coup d'État constitutionnel.
Oui,
et ainsi,
Marc Bafou, Jacob Zuma hors de la présidence, risque-t-il de se retrouver en prison?
Ben, il faut dire que la démocratie en Afrique du Sud marche, les institutions sud-africaines marchent, même si certaines institutions ont du mal à cause de la corruption. Mais il faut dire que comparé au reste de l'Afrique, les institutions ici en Afrique du Sud marchent. Et donc, il faut reconnaître que la justice est vraiment indépendante. Avec 783 charges, chefs d'accusation, on ne sait pas. Je me demande comment il va s'en sortir. Mais il faut aussi dire que certains deals sont des deals politiques. Et peut-être qu'il les a négociés avec Cyril Ramaphosa, ça on ne sait pas, parce qu'on sait qu'ils ont passé plusieurs jours enfermés à faire des négociations. Ils n'ont pas révélé en public tout ce dont ils ont parlé, mais on sait qu'il y a eu des deals. Donc peut-être qu'il ne sera pas poursuivi, mais connaissant l'Afrique du Sud et comment fonctionnent ces institutions, on se demande comment est-ce que Jacob Zuma pourrait échapper. D'ailleurs, hier, avant même sa démission, tous ceux qui étaient impliqués, la famille, certains membres de la famille de Gupta étaient traqués. Il y a eu des raids à la maison chez eux. Donc on se dit que, en tout cas, il pourrait se retrouver à tout moment en prison.
Beaucoup saluent la vitalité de cette démocratie sud-africaine, mais ça fait quand même deux présidents successifs que l'ANC... ces deux présidents successifs qui ont été obligés de quitter l'ANC avant la fin de leur mandat. Un commentaire, Philippe Hammerding, c'est pas très bon pour le parti majoritaire.
Écoutez, ce n'est pas très bon, mais de toutes les manières, le parti reste majoritaire, mais effectivement... Il faut se rappeler, donc, dans les années 2008, le même scénario s'est plus ou moins produit. Et ça a donc créé un précédent. Et les protagonistes étaient toujours là, c'est-à-dire Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa. Et Jacob Zuma était un des artisans principaux du retrait de Thabo Mbeki. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui revient. Et donc par rapport à cela, est-ce que le parti va en pâtir ? Pour l'instant, je pense que l'idée pour Ramaphosa est de redorer le blason du parti. Donc tout justement, ils ne peuvent pas emporter avec eux ce passif que représente Zuma jusqu'aux prochaines élections. Mais effectivement, oui, ça fait deux présidents, et je pense que depuis en fait le début de la démocratie, aucun président sud-africain n'a pu terminer ses deux mandats. Puisque oui. D'une part, Mandela, lui, n'a fait qu'un seul mandat, et puis ensuite, les autres ont été éliminés, ont été retirés avant la fin de leur mandat.
Alix Boucher, face à la lenteur de l'ANC, l'opposition a dû jouer un rôle beaucoup plus prononcé dans cette sortie. Quel peut être l'impact dans l'avenir ?
Je pense que ça reste à voir, mais l'opposition a joué un rôle très important, par exemple en déposant 8 motions de censure contre le président Zuma, et ensuite aussi en étant l'un des partis qui avait saisi la médiatrice de la République sur cette affaire Gupta, justement. Donc leur rôle a été très important. Le fait reste que l'ANC contrôle 249 sièges des 400 de l'Assemblée nationale et que donc évidemment leur majorité reste imposante. Donc si le président Ramaphosa veut changer cette dynamique, essayer de combattre la corruption, il faudra s'allier non seulement avec les membres de l'ANC, dont un certain nombre restent fidèles au président Zuma, mais aussi avec l'opposition pour pouvoir arriver à ces objectifs.
Merci. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne, deux commentaires Facebook. Le premier d'Alphonse Boaki de Kinshasa en RDC. L'ANC risque un jour de perdre sa notoriété à cause de dirigeants immoraux comme Jacob Zuma et Thabo Mbeki, rappelés par leur parti sans terminer leur mandat. Un autre de Dozana Dirangar Temaoum de Djamena au Tchad. Je pense que Cyril Ramaphosa est très pressé et va vite en besogne parce qu'il vit son intérêt de peur que l'ANC perde les échéances électorales à venir. C'est une stratégie de l'ANC pour gagner la confiance du peuple et maintenir le pouvoir. Nous aurons d'autres réactions quand Washington Forum revient, mais tout de suite, une courte pause.
Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique.
30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture, nos invités répondent aux questions.
Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine.
De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres,
nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel.
Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, en votre compagnie. Syndicaliste reconverti en homme d'affaires, politicien. À 65 ans, le nouveau président sud-africain a eu de nombreuses vies. Qui est Cyril Ramaphosa ? Son portrait par Salwa Jafari.
On le voit ici dans le flou de l'arrière-plan de Nelson Mandela. Aujourd'hui, Matamela Cyril Ramaphosa est sous les feux des projecteurs. Issu d'une famille modeste, d'un père policier et d'une mère au foyer, ce riche homme d'affaires de 65 ans est l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. Sur cette photo, il brandit le premier brouillon de la nouvelle constitution. Étudiant en droit, engagé dès la première heure, il est emprisonné à plusieurs reprises pour terrorisme. Il participe à la fondation du syndicat national des mineurs qui devient la plus grande centrale syndicale du pays. Mais 1990, Nelson Mandela sort de prison. Cyril Ramaphosa est considéré par beaucoup comme l'artisan de sa libération. Mandela en fait son dauphin en le considérant, d'après ses mémoires, comme l'un des plus doués de sa génération. En 1997, il subit néanmoins le premier grand revers de son parcours politique lorsque l'ANC lui préfère Thabo Mbeki dans la course pour la direction du parti. En 1912, sans même faire campagne, Cyril Ramaphosa signe son retour en politique en accédant au poste de vice-président de l'ANC. Jacob Zuma fait appel à lui pour redorer son blason alors que les premières affaires de corruption commencent à émerger. Il est nommé vice-président du gouvernement en 2014. Dans la course à la présidence et en dépit d'un bilan mitigé du gouvernement, l'homme prend la tête des frondeurs anti-Zuma et axe sa campagne sur la lutte contre la corruption. Les Sud-Africains attendent donc de lui qu'il tourne cette page éclaboussée de l'histoire politique du pays pour sauver le parti de Mandela.
Toujours avec nous via Skype de Johannesburg, entré Thomas Sausen, professeur à l'UNISA, l'Université de l'Afrique du Sud. Du studio de VOA Johannesburg, Marc Bafou, activiste de l'African Diaspora Forum. Et à ses côtés, Philippe Kamerding, directeur associé d'African Search. Et avec moi, toujours sur notre plateau, Alix Boucher, analyste spécialisée en transition politique. On a pu observer le rétro-pédalage de l'ANC qui a affirmé puis contesté le fait que Zuma avait négocié son départ avec Cyril Ramaphosa. La question du package est-elle toujours d'actualité, André Thomas Hossein?
Non. Ramaphosa n'a pas dû promettre un package. Zuma a bien essayé de copier un peu le précédent du président Mugabe qui avait négocié un très bon package pour lui, mais la force de Cyril Ramaphosa est incontestable. Dans les derniers trois mois, il a vraiment gagné un support majoritaire de 70% même parmi le peuple, parmi les électeurs. Dans le parti, il a fait son accord, il a fait sa paix avec ceux qui étaient encore du côté de Zuma, tels que Mabuza et Ace Magashule, qui ont appuyé Ramaphosa. Il y aura évidemment un prix à payer, un compromis dans la politique économique, mais ce sera surtout la politique économique et une réforme de la gestion du pays, la gestion des entreprises publiques qui sont tous en faillite, qui décidera sur l'avenir de Ramaphosa et aussi l'avenir de l'ANC dans les élections de 2019.
Mais c'est l'aboutissement d'un rêve pour Cyril Ramaphosa. C'est une longue traversée qui l'a conduit au fauteuil présidentiel. Selon vous, André Thomas Hossein, c'est une revanche, une victoire ou un goût d'inachevé?
Non, c'est une victoire, c'est pas une revanche. Pour Ramaphosa et pour le pays, c'était tragique que c'était pas lui qui a succédé Mandela, mais Thabo Mbeki, qui lui aussi n'avait pas vraiment une notion de la gestion des affaires. Et le déclin de l'Afrique du Sud a vraiment commencé dans la période de Thabo Mbeki et elle est devenue dramatique dans les derniers 8 ans. Le pays du rêve même, du rêve du monde, le pays de la paix, le pays du progrès et des valeurs fondamentaux incontestables, ce pays est devenu un pays pratiquement échoué, où le chômage a atteint. Le chômage réel a atteint pratiquement 50% de la population adulte.
On en reparlera justement tout à l'heure du chômage et des points économiques. La nomination de Ramaphosa à la tête de l'État ne veut pas forcément dire la fin des tensions au sein de l'ANC. Le Zexit laissera-t-il des traces dans la politique sud-africaine, Marc Bafou?
S'il vous plaît, j'ai pas bien entendu votre question.
Est-ce que Oui, il n'y a pas de problème. La sortie de Jacob Zuma laissera-t-elle des traces dans la politique sud-africaine?
Mais bien sûr, déjà, On pourrait dire que le départ de Zuma, c'est une victoire de l'opposition parce que il faut reconnaître que jusque-là, l'ANC a quand même traîné les pas. L'ANC a soutenu au moins 8 fois à des motions de défiance, a soutenu Jacob Zuma, et ça c'est resté dans la tête des Sud-Africains aujourd'hui qui se demandent mais comment au dernier moment vous le lâchez, c'est qu'il y a quelque chose que vous nous cachez aujourd'hui, c'est la grande question ça du public. Donc nous disons que Cyril Ramaphosa a du travail à faire pour regagner la confiance des Sud-Africains. Il est bien vrai que avec Ramaphosa, on ne fait pas allusion à la corruption, mais il y a des choses comme les tueries de Marikana qui le rattrapent. Il y a certains faits. Et précisément ça, on sait qu'il était à la base. Il y a eu des emails qui ont été échangés entre lui et les agents de sécurité avant que cette tuerie ne se passe. Et aujourd'hui, les Sud-Africains, on sait que à voir comment est-ce que le parti de l'opposition, le troisième parti de l'opposition, le troisième parti du pays, l'IFF, est sorti du Parlement aujourd'hui.
Oui, l'Economic Freedom Fighters, nous pensons, le parti de voilà, Julius Malema.
Voilà, nous pensons que c'est des signes qui font dire que quand même il y a des questions qui seront posées et Ramaphosa peut avoir du fer à retordre.
Je vous écoute.
S'il vous plaît. Oui. À connaître l'homme, aujourd'hui, si vous avez bien suivi l'opposition, en tout cas le DIE, le plus grand parti d'opposition, et les autres d'ailleurs qui étaient présents aujourd'hui au Parlement, disent qu'ils vont tous soutenir Ramaphosa s'il travaille vraiment à réunir tous les Sud-Africains. Et moi, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas attendu depuis longtemps, des années.
Je voudrais rebondir sur les enjeux économiques, Monsieur Mbafou. On va en parler avec Philippe Amerdine. Il y a eu un ralentissement de la croissance avec cette crise au sein de l'ANC.
Oui, on a pu remarquer en fait un ralentissement de la croissance, et ça depuis le début des années de Zuma. Bon, il y a eu une embellie juste après en fait la Coupe du Monde de football. On avait atteint un niveau de croissance qui était à peu près de 3%. Et aujourd'hui, je crois qu'au troisième trimestre, on était à 0,8, avec une baisse qui était à moins, je crois, c'est 1,6 fin 2016, je crois, dernier trimestre 2016. Là, on attend les chiffres du quatrième trimestre. Donc, il y a eu un ralentissement net de la croissance. Bon, d'une part, parce qu'en fait, il y a eu, je pense, d'une part, la méfiance, mais aussi, il faut savoir qui était Zuma et comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, il n'y avait pas de vision très claire ni de stratégie de ce qu'il allait faire. Et en plus, c'était entouré de personnes qui n'étaient pas, on va dire, des technocrates de l'Acabie ou des gens qui avaient ces notions de stratégie telles que Cyril Ramaphosa, qui arrive sur la fin. Donc, ce qui fait que sur ces années, les investissements ont décliné. Bon, d'autre part aussi, le taux de chômage s'est accéléré, on va dire. Et ça, on le voit très nettement.
C'est malheureusement déjà la fin de cette émission, Monsieur Amerdine. Merci beaucoup. Ainsi s'achève l'émission. Merci à tous nos invités, à nos collègues de Washington. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Raïssa Girondin en direct de la capitale. Excellente suite de programme.